Que se passe-t-il dans le cerveau d'un musicien lorsqu'il se lance dans l'exercice de l'improvisation? De nombreux chercheurs se sont intéressés à cette question. Comprendre les mécanismes cérébraux qui sont en jeu chez les artistes qui improvisent afin de mieux connaître les ressorts de la créativité. Sur quoi repose cette capacité d'improvisation? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant avec un musicien et un spécialiste du cerveau. C'est une rediffusion d'un dossier de la Tête au Carré. Nous ne pourrons donc pas recevoir vos questions comme d'habitude. À la une de la science, le réchauffement climatique qui se confirme à l'échelle de la planète, Catherine de Coppet. Bonjour.
Bonjour. Alors que 2015 a été déclarée année la plus chaude depuis le début du XXe siècle, des chercheurs se sont intéressés au cas particulier de la Chine et leurs résultats sont surprenants.
On voit ça dans un instant. Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au Carré, préparée par Lucie Sarfati avec François Mercier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'art de l'improvisation, c'est donc le dossier dans un instant de l'émission avec mes invités, le neurologue Pierre Lemarquis et le compositeur et chercheur Édouard Perrault. Bonjour,
bonjour à tous les deux,
bienvenue. Pierre Lemarquis, est-ce qu'improviser représente à chaque fois une véritable performance pour le cerveau d'un musicien ou est-ce que finalement ça n'est qu'une question d'habitude?
Oh, il y a certainement les deux, quoi. Il faut une grande habitude pour puiser dedans, pour libérer son attention et pouvoir en quelque sorte s'évader. Là, on vient d'entendre des nouvelles très difficiles. On a envie d'improviser, de chanter, de donner des percussions pour s'en extraire. Plus qu'un exercice, un exorcisme.
Mmh. Est-ce que ça dégage beaucoup d'énergie? En tout cas, on le voit, ça, à l'imagerie ou pas?
Ah oui, il y a des choses fabuleuses. On libère un peu la folie qui est en nous. On nous enferme tout le temps dans des carcans. Là, pour une fois, on peut se libérer et crier. Sa joie, c'est on joue.
Édouard Perrault, est-ce qu'un artiste peut prendre le risque de s'improviser improvisateur lorsqu'il est sur scène?
Ah, quelle belle question. Je dirais que improviser, c'est comme aiguiser sa lame, aiguiser son âme un peu, se sentir très vivant et du coup être en extase du monde et le dire à travers un langage musical, c'est une chance.
Mais on comprend qu'il y a quand même un petit travail, hein, dessous.
Absolument, ça s'improvise pas d'improviser.
Voilà, l'improvisation, ça s'improvise pas. Voilà, bon, on va en discuter tous les deux parce que vous avez beaucoup réfléchi à cette question. Vous allez également nous livrer les découvertes scientifiques dans ce domaine fascinant. Et on se retrouve avec les questions des auditeurs.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, la planète qui n'en finit pas de connaître des records de chaleur.
En venant à Pékin, François Hollande s'est fixé un objectif. Il veut que la Chine s'engage de façon contraignante à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
D'ores et déjà, la Chine et la France prennent des décisions dans le cadre d'une stratégie commune pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle.
Premier pollueur de la planète, la Chine accepte aussi un contrôle tous les 5 ans de ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Et c'était François Hollande en novembre dernier lors d'un déplacement en Chine, juste avant la COP21. La Chine qui est souvent montrée du doigt d'ailleurs comme pollueur important, acteur majeur du dérèglement climatique. Une assertion juste mais qu'il faut nuancer, Catherine de Coppet. Hein.
Oui, c'est l'objet d'une étude publiée il y a quelques jours dans Nature qui nous dit notamment que la Chine a une part moins importante qu'on imaginait dans le réchauffement climatique.
Bonjour Thomas Gasser.
Bonjour.
Vous êtes l'un des co-auteurs de cette étude scientifique du climat au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et puis avec nous dans ce studio, Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avant d'entrer dans le vif de l'étude, Hervé, il faut rappeler que les annonces récentes sur le réchauffement climatique ne s'arrangent vraiment pas.
Et non, très récemment, la Météo France nous a dit que l'hiver 2015-2016 avait été le plus chaud enregistré en France depuis le début du XXe siècle. Peu après, la NOAA et la NASA, deux agences états-uniennes, ont dit que le mois de février avait été le plus chaud dans le monde depuis 1880. Et pour couronner cette série de tristes nouvelles, l'Organisation météorologique mondiale vient d'annoncer que 2015, je cite, a marqué l'histoire avec des records de température fracassant, c'est le mot qu'emploie l'OMM. Et c'est dans ce contexte qu'intervient l'étude de l'équipe franco-chinoise qui vient de paraître dans Nature, qui est vraiment très importante. On va voir pourquoi. Avant, on disait que le méchant du climat, c'était les États-Unis. Et puis, après 2008-2009 à peu près, on s'est rendu compte que la Chine devenait le premier émetteur de CO2, le gaz carbonique. La Chine devenait le grand méchant climatique. Eh bien, non, nous dit l'étude qui paraît et dont on va parler avec Thomas Gasser. Ce qu'elle dit, ces études, c'est que La Chine est un responsable moins important qu'on le pensait du réchauffement climatique. Pour le comprendre, il faut bien avoir en tête que le changement climatique ne découle pas seulement de l'accumulation de gaz carbonique, mais qu'il faut analyser aussi d'autres gaz à effet de serre. Il faut analyser les aérosols, il faut même analyser l'albédo, c'est-à-dire la réflexion de la lumière par les surfaces terrestres. C'est ce que va nous expliquer
Monsieur, notre invité, voilà. Catherine de Copé.
Oui, alors Thomas Gasser, justement, Hervé Kem vient de le préciser, votre étude, et c'est en partie son originalité, est basée finalement sur toutes les sources qui peuvent changer le climat, hein, c'est bien ça?
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait eu par le passé un certain nombre d'études qui ont cherché à classifier, à ordonner les pays émetteurs, les pays pollueurs, mais notre étude a l'intérêt de prendre en compte l'ensemble des perturbations d'origine humaine du système climatique.
Alors aujourd'hui, le résultat de votre étude vient nuancer ce qu'on dit toujours de la Chine, à savoir qu'elle est responsable à elle seule d'un quart des émissions de CO2 d'aujourd'hui. Alors quel est le résultat concrètement?
Alors le résultat, donc comme vous l'avez dit, c'est cette nuance entre ce chiffre qu'on peut trouver à peu près n'importe où dans tous les médias, qui est que la Chine à l'heure actuelle émet à peu près 25% du CO2 d'origine fossile. Et nous, on calcule que sa contribution à ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire c'est un indicateur pertinent du changement climatique, sa contribution est de 10%, avec une incertitude qui est quand même c'est 10 plus ou moins 4% du total.
Et vous évoquez 12% pour sa contribution au réchauffement induit par les gaz à effet de serre, hein, c'est bien ça?
Voilà, donc le changement climatique n'est pas causé uniquement par les gaz à effet de serre. En fait, il y a des composés qui réchauffent, les gaz à effet de serre, mais il y a aussi des composés qui refroidissent. Ces composés sont les aérosols. Dans notre étude, on a cherché à attribuer indépendamment chacun des composés pour ensuite évaluer l'effet total.
On voit, Thomas Gasser, à quel point toute cette question est quand même extrêmement ultra complexe. Elle est multifactorielle, hein, puisqu'on le voit, il faut prendre énormément de paramètres en compte.
Oui, tout à fait. Alors là, on a parlé des différents composés qui rentrent en jeu. Alors, en plus des composés, il y a, comme il a été mentionné, la question de la capacité des surfaces à réfléchir le rayonnement solaire, qui est encore un élément supplémentaire. Et en plus, il y a la question de l'historique des perturbations, c'est-à-dire que notre étude s'intéresse aussi aux émissions de gaz à effet de serre et des aérosols qui ont eu lieu depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire en gros depuis le début du changement climatique.
Donc vous remontez jusqu'à quelle période exactement? 18e siècle, c'est ça?
Alors on fixe de manière assez arbitraire, on fixe le début de la révolution industrielle à 1750.
Hervé Kempf.
Il y a un aspect très étonnant dans votre étude, c'est que vous dites que les efforts que veut mener la Chine, elle s'y engage réellement, notamment dans le dernier plan quinquennal qui vient d'être publié, une réduction très forte de la pollution atmosphérique. Et paradoxalement, vous dites que ça pourrait avoir un effet négatif sur le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
Oui, mais on a du mal à comprendre, oui.
En fait, donc je l'ai dit, schématiquement, il y a deux grands perturbateurs du système climatique. Il y a ces gaz à effet de serre dont on entend toujours parler, et il y a les aérosols. Donc les aérosols, ce sont des particules en suspension dans l'atmosphère. Mais ces particules ont une très faible durée de vie, c'est-à-dire qu'elles retombent assez rapidement. Elles retombent au bout de quelques jours ou quelques mois, en fonction du type d'aérosol. Et donc ces aérosols participent, ce sont eux qui participent à la pollution de l'air. Ce ne sont pas les gaz à effet de serre.
Et donc
mettre en place une politique de réduction, d'amélioration de la qualité de l'air, ça consiste à mettre en place une réduction de l'émission de ces aérosols ou de leurs précurseurs. Et donc, comme ces aérosols ont en plus un effet refroidissant, masquant, on peut avoir cet effet qui est contre-intuitif, qu'améliorer la qualité de l'air peut augmenter le changement climatique.
En fait, si on comprend bien, il faudrait aussi que la Chine fasse un effort sur ses émissions de gaz à effet de serre pour ne pas contribuer encore plus au réchauffement climatique, hein, c'est bien ça?
Voilà, en quelque sorte, il faudrait compenser le fait que, en améliorant la qualité de l'air, on diminue l'effet masquant de ces composés refroidissants. Il faudrait compenser par une réduction d'au moins autant des gaz à effet de serre, ou, alors c'est là que ça devient subtil, il y a un aérosol qui est, lui, réchauffant.
Il va falloir faire le tri dans les aérosols.
Voilà.
Thomas Gasser, votre étude donc change un petit peu l'image de la Chine, hein, on le voit, et puis surtout indique qu'il faut vraiment interpréter les choses et les chiffres avec beaucoup de précautions. Ça devrait pouvoir inspirer les politiques du monde entier, selon vous?
Ben, du moins, je l'espère. Ce que ça montre, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est la complexité du système et qu'on peut pas simplement pointer du doigt un pays, c'est-à-dire ce sont les plus gros pollueurs et ce sont les méchants, entre guillemets, et c'est à eux de faire les efforts. L'image est beaucoup plus complexe, en fait, hein. Alors, notre étude ne change pas complètement l'image, c'est-à-dire que les grands pays pollueurs, si on réappliquait notre méthodologie à d'autres pays et qu'on en arrivait à avoir une estimation à l'échelle du globe du rôle de chaque pays, on verrait quand même le rôle des grands émetteurs historiques comme les États-Unis ou l'Europe, et la Chine resterait de toute façon un grand pollueur.
Oui, mais précisément, est-ce que vous allez mener cette étude sur notamment les États-Unis?
Alors, donc on ne l'a pas mené. Pour être honnête, c'est pas quelque chose qui est envisagé immédiatement. Alors là, on a démontré la faisabilité d'une certaine manière. Maintenant, pour multiplier ce nombre d'études, pour prendre en compte les incertitudes qu'il y a autour, ça demande en fait des investissements en temps
et de l'argent. Et de l'argent, voilà. Vous n'avez pas, pour être tout à fait clair. Merci beaucoup, voilà. En tout cas, pour ce décryptage, suite à cette étude parue dans Nature, Thomas Gasser. Merci beaucoup, Hervé. Vous faites l'écho, justement, de ce travail?
Tout à fait. Dès demain, pour cette étude vraiment très importante.
Sur reporter.net. Merci, Catherine Tocopé.
Merci, à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bactérie qui se plaît mieux hors de notre atmosphère que sur Terre. Le projet Mercury a mis en culture 48 souches de bactéries à plus de 400 km au-dessus de nos têtes dans la Station Spatiale Internationale. Et résultat, Bacillus safensis est la seule bactérie à s'être développée, et ce, dans des proportions surprenantes. Elle connaît une croissance plus forte de 60% lorsqu'elle n'est pas soumise à la gravité terrestre. Pour mieux comprendre son fonctionnement au long terme, la prochaine étape consistera à effectuer des tests plus poussés à bord de l'ISS. La visite virtuelle de la tombe de Richard III, une modélisation accessible en ligne qui permet aux chercheurs comme aux étudiants d'apprécier la position du squelette et son détail. Pour rappel, la tombe de Richard III avait été retrouvée en 2012 sous un parking des Midlands de l'est de l'Angleterre. La mine d'informations recueillie par les archéologues nous en apprend un peu plus sur les derniers instants du roi. Le lien pour cette visite virtuelle est en ligne sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Et puis c'est une première, le télescope spatial Kepler de la NASA a capté la présence d'une supernova à 1,2 milliard d'années-lumière de la Terre. Cette étoile qui s'appelle KNS 2011D en fin de vie est 500 fois plus grosse et 20 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. L'observation de l'onde de choc provoquée par cette étoile en fin de vie permet de mieux comprendre les origines de l'univers. C'est l'une des missions de Kepler qui photographie 500 galaxies chaque demi-heure depuis 3 ans. Les artistes de la NASA ont donc décidé de reconstituer l'événement sur une vidéo qui est en ligne. Même chose, Twitter et Facebook de la Tête au Carré. Notre dossier sur la créativité musicale, c'est dans un instant, juste après Liane Lahavas. Just like the ancient. Green and Gold, Liane Lahavas.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
L'art de l'improvisation dans le dossier de l'émission, donc cet après-midi avec mes invités pour nous faire découvrir ce domaine de la créativité, Pierre Lemarquis et Édouard Perrault. Pierre Lemarquis, vous êtes neurophysiologiste, membre de la Société française de neurologie et de l'Académie des sciences de New York. Et vous êtes l'auteur, entre autres, de deux livres, Sérénade pour un cerveau musicien et L'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange, paru tous les deux chez Odile Jacob. Édouard Perrault, vous êtes compositeur, percussionniste, improvisateur, on peut le dire, et chercheur. Et votre dernier album, Beyond the Predictable Touch, est sorti l'année dernière. On va tout de suite en écouter un extrait pour rentrer dans le vif de notre sujet, avec un des morceaux qui s'appelle « Nun Komm ». Édouard Perrault, alors parlons justement de ce morceau qu'on n'a pas choisi évidemment par hasard pour évoquer ce thème de l'improvisation. L'original, il faut dire, est de Jean-Sébastien Bach.
Absolument, oui, c'est un choral varié écrit pour orgue, qui m'a beaucoup plu depuis mon enfance en fait. Et j'ai toujours eu cette idée de m'approprier ce morceau-là et de le diffracter et d'en faire une sorte de variation jazz. Ouais. Donc de faire jouer mes amis Thomas de Pourquerie et Daniel Erdmann et les autres membres du groupe, bien sûr.
Donc de les faire jouer et de les faire improviser.
Et de les faire improviser, de faire chanter, de chanter sur ce chant. Donc faire une sorte de contre-chant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fugue. Donc y a c'est une élaboration d'écriture assez, scientifique. Bach était un immense écrivain contrapuntique.
Ça veut dire quoi, contrapuntique ?
Alors, c'est du contrepoint, un point contre un autre. Mmh. Donc, c'est une ligne mélodique et à laquelle va répondre, il y a un sujet, une réponse, un contre-sujet.
Donc, il y a une vraie grammaire, au fond.
Absolument. Alors ouais. Là, il y a une vraie grammaire. D'ailleurs, Bach, on le faisait improviser à la fin tous les ans.
C'était un grand improvisateur aussi ?
Absolument. Ouais. Je connais pas beaucoup de musiciens qui ne soient pas des grands improvisateurs. Je pense que l'improvisation, c'est une sorte de laboratoire déjà intérieur. Mmh. Quand on compose, on improvise intérieurement finalement.
Voilà cet album qui est sorti l'année dernière, Beyond the Predictable Touch, avec ce titre en particulier, Pierre Lemarquis, pour rebondir justement en propos d'Édouard Perrault, sur ces grands musiciens qui sont souvent de grands improvisateurs. Vous êtes d'accord avec ça ?
Bien sûr, et puis les organistes, par leur fonction, sont en général de très grands improvisateurs. Donc Bach était capable, la fameuse toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, c'est une improvisation. Mmh. Et l'organiste est obligé d'improviser, puisqu'il doit s'adapter à une série. Il faut qu'il module sur les chants qu'il va entendre, qu'il trouve faire passer des émotions au cours d'un office. Et Bach excellait. J'ai adoré votre mot de diffracter. Diffracter l'œuvre de Bach, la fugue, c'est déjà une diffraction, puisqu'on part d'une idée qu'on va explorer sous tous les angles. Et à cette époque-là, notamment dans les chorales, on avait un petit peu l'idée de diffracter la lumière. La lumière se diffracte, ça nous donne le bel arc-en-ciel, et on peut faire la même chose avec la musique. Si on prend tous les sons, on peut retourner vers un son primordial. Le dodécaphonisme a fait la même chose, c'était la même idée. Quoi.
Ouais. Justement, improviser avec ses camarades musiciens, Édouard Perrault, c'est très différent que d'improviser seul.
Absolument, oui. Improviser seul, il m'arrive parfois en concert d'avoir une sorte de point d'orgue. Je me dis, alors maintenant je vais où ? Et c'est génial, c'est ce qu'on cherche aussi, une espèce de...
Donc vous échappez à ce moment-là ?
Voilà, et on s'échappe. Et du coup, ça m'arrive de convoquer des gens. Je me dis, tiens, lui, j'aime beaucoup jouer avec lui. Qu'est-ce qu'il ferait s'il était maintenant avec moi ? Et ça, j'aime bien cette idée-là, donc d'être seul, mais de convoquer ceux qui, avec qui on a déjà échangé. Et ça nous donne d'autres chemins, finalement, d'autres directions. Et puis, improviser seul, c'est improviser dans une salle aussi, une acoustique. Et l'acoustique va être totalement différente si on est dans une chapelle ou dans un studio très, ouais. très, une chambre anéchoïque, par exemple. Donc là, on va avoir un retour dans une chapelle, on va avoir une espèce d'écho. Et pour moi, la musique, pour citer Lord Byron, la musique est un écho des astres. Pas des astres, mais des
en deux mots.
Astres.
En deux mots, vous qui aimez tant l'astronomie justement et l'astrophysique. Pierre Lemarquis, on verra avec vous ce qui se passe dans le cerveau, évidemment, de l'improvisateur. Encore une question à Édouard Perrault. Qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous accordez cette échappée au beau milieu d'un concert, que vous dites, ça y est, je me lance et j'improvise. Qu'est-ce qu'on ressent dans sa chair, dans son corps et quelles émotions est-ce que ça suscite?
C'est unique. C'est une expérience unique. C'est un acte presque d'amour avec la nature dans son ensemble. Avec
c'est
l'univers.
Très cosmique, hein.
Ah ouais. Oui. De toute façon, la musique avec Pierre, c'est un peu les premiers mots qu'on a échangés tout à l'heure hors micro. La musique depuis la nuit des temps et dans sa théorisation est très liée à l'enseignement des sciences. Hein, le quadrivium. Et puis des compositeurs même du XXe siècle que j'ai eu la chance de rencontrer, notamment Xenakis, s'est beaucoup nourri et a fait sa thèse sur l'art-science.
Ouais.
Je sais que c'est un sujet que vous aimez bien ici.
C'est vrai. Et l'improvisation, alors, parce que arriver à ressentir, à faire partie du cosmos, hein, comme vous semblez le dire, c'est à mon avis un moment assez exceptionnel. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce passage du funambule? Vous êtes sur le fil comme ça, un peu au bord du précipice.
Oui, c'est cette prise de risque, c'est se jeter dans le vide sans parachute et improviser sa chute et essayer de retomber sur ses pas.
Ouais.
Et quelque part, il n'y a pas de résultat, il y a juste l'expérience de le faire. Et j'invite tout le monde à essayer de le faire.
Ouais.
On est en apprentissage permanent et il n'y a rien de définitif.
Alors c'est ça, Pierre Lemarquis, parce qu'au fond, on improvise, même si on n'est pas musicien, tous les jours dans notre vie face à des situations nouvelles. Nous sommes dans un acte d'improvisation permanent.
Nous sommes comme Monsieur Jourdain, là. Nous sommes en train d'improviser puisqu'on se répond l'un l'autre. On n'avait pas de plan de route, donc ça peut-être un petit peu donner une petite idée de ce qui se passe dans le cerveau d'un musicien qui improvise, puisque la musique, c'est une sorte de langage. Et on a montré que des musiciens qui improvisaient entre eux, leur cerveau fonctionne comme s'ils étaient en train de se parler l'un à l'autre. Voyez.
Donc, ça, c'est les neurones miroirs, justement, ou pas? Est-ce que ça joue là-dedans un petit peu?
Ça doit certainement jouer. Les neurones miroirs, l'empathie, le fait d'essayer de se comprendre l'un l'autre. Donc, les musiciens dialoguent vraiment, à ceci près que la musique, c'est... Enfin, peut-être Edouard sera d'accord avec moi, la musique c'est bien mieux que le langage. Non, le langage c'est un résidu, c'est un petit peu le sommet de l'iceberg. La musique ça permet peut-être d'aller bien plus loin, d'être bien en amont. Le langage est certainement apparu bien après la musique. On chantait, on faisait de la musique avant de parler. Et d'ailleurs quand on arrive à la fin de notre existence, qu'on ne peut plus parler, par exemple d'un mal d'Alzheimer, des choses comme ça, on est toujours capable d'être sensible à la musique jusqu'au bout. On voit des gens sur leur lit, enfin tout à fait à la fin de leur existence, qui vont encore avoir une audition, qui va encore aimer la musique. On a Rameau sur son lit de mort, Rameau qui est en train de mourir, et le prêtre vient lui donner l'extrême onction, il se met à chanter, et Rameau se réveille avec sa grosse voix, il lui dit, mais mon père, vous pouvez pas arrêter de chanter faux, quoi, et puis il disparaît.
c'est... Ouais. Jean-Pierre demande, est-ce que l'improvisation théâtrale et musicale font travailler les mêmes parties du cerveau?
Musical et théâtral. Alors, le problème, c'est que ça a été étudié que pour la musicale. Le théâtral, vous pouvez difficilement mettre quelqu'un dans une IRM fonctionnelle, enregistrer ce qui se passe. Alors, la seule expérience qui a été faite à ce niveau-là, bon, c'était pas du théâtre, c'est du rap. Donc, un rappeur qui improvise, on lui fait entendre une percussion, un rythme, et puis il va improviser, les yeux fermés. Donc, son cerveau va s'activer, bien entendu, les zones du langage, mais curieusement, les zones de la vision. Alors qu'il a les yeux fermés, il improvise, certainement il voit ses mots, ou il voit des lettres, il voit quelque chose qui diffuse dans son cerveau, puis bien entendu le cervelet, mais le cervelet, dans ce contexte-là, c'est surtout la mémoire procédurale, la mémoire des gestes, oui, c'est assez étrange ce qui se passe. Maintenant, la mémoire musicale, c'est bien plus facile, l'improvisation musicale, puisque maintenant, on peut mettre un musicien dans une IRM fonctionnelle et lui donner un petit clavier.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'y va pas avec une contrebasse quand même.
Non, 35 notes, c'est pas mal. 35
c'est pas
notes,
mal,
il improvise d'une main, une mélodie, et à ce moment-là, on peut voir ce qui se passe.
Édouard Perrault, on parle d'improvisation libre. Est-ce que le terme est exact?
Oui, parce que on peut improviser dans un langage préexistant finalement, mais on peut aussi tenter d'improviser un langage. Et donc se sentir totalement libéré de toute contrainte en essayant de finalement de tout oublier. Hein, c'est presque un fantasme d'essayer d'être dans la non-influence. Ouais. Ex nihilo, comme ça, il y a des compositeurs qui ont essayé de faire ça.
Ouais. Hein, mais est-ce qu'on ne peut pas accéder à ce statut lorsque, précisément, on a beaucoup d'influence derrière soi et un bagage qui est là bien solide?
Ah oui, et ça, c'est tout le paradoxe de l'art d'improviser. C'est d'essayer, comme dit Léonard de Vinci, on a la sensibilité de sa connaissance. Donc, d'étayer au maximum le savoir qu'on peut... Ouais. Avoir et devenir plus sensible, de plus en plus sensible. Mmh. Sensible aux rencontres, sensible aux gens, sensible à la nature. Et du coup, être dans la création. Mais le paradoxe, c'est justement d'essayer de tout oublier aussi.
C'est ça. Gilles nous dit, Miles Davis a improvisé la musique d'ascenseur pour l'échafaud. Est-ce que vous confirmez?
Ah oui. Ouais. Il a improvisé ça devant le film... Louis Malle lui a demandé ça. Ouais.
Une seule prise, je crois.
Enfin, c'est quelque chose de fulgurant comme ça. Mais c'est pour ça qu'on improvise. C'est un peu pour convoquer, pour se dépasser, ouais. se transcender, essayer d'échapper à ses limites.
Ouais. Il y a un autre cas d'école, c'est Keith Jarrett. On va en parler dans la deuxième partie de cette Tête au Carré avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et juste après Clarica.
Je ne te dirai pas l'absence. Cette moitié de moi qui est morte et puis qui danse autour d'un grand feu sans joie. Je ne te dirai pas la peur d'une vie loin de tes bras, le poignard plongé dans le cœur et la lame qui se retire pas. Je dors en diagonale, à plat ventre dans notre grand lit, pour que mes bras en croix avalent le vide de ton corps enfui. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas, non. Parce que j'ai eu tant d'amour que si ça s'arrête aujourd'hui, j'en aurai encore pour le reste de ma vie, pour le reste de ma vie. Je ne te dirai pas le chagrin qui est mon nouveau manteau, qui me gratte et qui m'étreint, parfois me tient chaud. Je ne te dirai pas le ciel comme il est beau sur nos toits, qu'il me fait pousser des ailes pour sauter, faire le grand plat, et que je parle avec le chat, que je l'appelle par ton prénom. N'arrivera sur toi qu'après deux petits verres de Chinon. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas, non. Parce que j'ai eu tant d'amour que si ça s'arrête aujourd'hui, moi j'en ai. L'espoir met souvent les voiles, mais il brille quelque part. Oh.
Oh ma toute petite étoile.
Et la voix de Clarica, je ne te dirai pas. Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré. Mes invités, le neurophysiologiste Pierre Lemarquis, le compositeur, improvisateur et chercheur Édouard Perrault pour parler de l'improvisation. Édouard Perrault, justement, cet album Racine Carrée qui a un lien direct avec notre maison, hein, et France Musique.
Oui,
et ça, c'est de l'impro pur jus.
Ah oui, ouais, ouais, ça c'est Anne Montaron dans son émission à l'improviste qui avait invité Jean-Pierre Drouet et moi-même pour faire un duo de percussions.
Ouais.
Et c'était pas mal, donc on a sorti le disque, Anne a bien voulu nous mixer ça, ouais. Et c'était, ouais, c'est un bonheur ce disque-là. Et Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a joué vraiment avec beaucoup, beaucoup de gens, et avec Michel Portal aussi beaucoup à l'époque, ouais. C'est un grand frère de son pour moi, Jean-Pierre.
Est-ce qu'il parfois, il y a vraiment des moments pour vous, c'est difficile de vous lancer dans une improvisation parce que vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué, vous avez des soucis et que du coup on n'ose plus quoi.
Ouais, mais c'est là.
On se sent plus fragile.
Justement, c'est là où les choses peuvent émerger. C'est dans la fatigue parfois, dans l'extrême fatigue parce qu'on passe beaucoup de temps dans les transports, faut dire, en tant que musicien. Et en plus, où il n'y a pas vraiment de langage sémantique, donc on passe des États-Unis à l'Europe, j'ai la chance de beaucoup voyager, mais c'est aussi le pendant, c'est d'être un peu fatigué. Et parfois, on arrive sur scène
pour
improviser, et là, on se dit bon, ça va être dur. Et finalement, dans un état un peu second comme ça, on est parce qu'on convoque toujours avant de. Moi, je convoque mes sons avant de les jouer. J'essaie de les maîtriser, donc je les pense, je les prémédite avant. Mais ils me répondent. C'est comme un peu l'allégorie de l'improvisation. Pour moi, c'est une sorte de femme qui met la main sur votre épaule et qui dit « Vas-y, continue. » Parce que c'est comme ça, c'est maintenant.
Pierre Lemarquis, il y a ce message de Michael. L'improvisation ne serait-elle pas une illusion? Le musicien n'aurait-il pas dans sa tête quelques fragments déjà préexistants? Alors du côté du cerveau.
Alors Michael a tout à fait raison. C'est Lavoisier. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est transformé. C'est un peu triste, mais il y a quand même du rêve là-dedans parce que le musicien qui va improviser, au départ. Il faut qu'il ait une mémoire exceptionnelle. On sait par exemple que Mozart se souvenait de tout ce qu'il avait entendu. Et après, il le recyclait. Donc, il y a la mémoire et l'imagination. Donc, effectivement, il va puiser dans tout ce qu'il a mis. Plus la mémoire est grosse, plus il aura de sources. Et par son imagination, il va pouvoir le transformer. Il se souvient même plus d'où ça sort. Il y a McCartney qui se réveille, qui joue Yesterday sur le piano, et il pense que c'est un morceau qu'il a entendu, et il va chercher pendant 2 mois où est-ce qu'il l'a déjà entendu avant de mettre son nom dessus, quoi.
Et McCartney qui sait pas écrire la musique.
Oui,
donc
voilà,
justement,
il y a
une grande intuition en fait chez Paul McCartney.
Donc il a certainement qu'on pourrait trouver des sources, mais enfin c'est quand même sa création, mais elle venait de quelque part puisque lui-même pensait qu'elle lui avait qu'il l'avait entendu avant de la créer.
Alors Michael qui dans son message demandait comment vos invités analysent les impros de Keith Jarrett, sont-elles vraiment sorties ex nihilo? Ben justement pour en discuter, on va écouter l'extrait de cette émission de France Musique comme si vous y étiez. C'était en 2014 sur ce phénomène du concert de Cologne.
Le 24 janvier 1975, à l'opéra de Cologne, Keith Jarrett est d'une humeur massacrante. Il a peu dormi et surtout, il est très énervé par la qualité du piano sur lequel il doit se produire ce soir-là. Alors jusqu'à la dernière minute, il pense annuler le concert, tant pis pour le public. Et puis, finalement, il se traîne quinca jusqu'au piano tandis que la sonnerie de la salle retentit, indiquant aux spectateurs qu'ils peuvent gagner leur place, que le concert va commencer. Que fait alors Keith Jarrett? Il s'assoit de guingois sur son tabouret et, ironiquement, reprend les 4 premières notes de la sonnerie sur son piano. Oui, vous avez bien compris, il se met à imiter la sonnerie de la salle de l'Opéra de Cologne en guise d'introduction. D'abord, ça fait bien rire le public. Mais bientôt, plus question de rigoler. Le public est happé. Happé par les vertiges dans lesquels Keith Jarrett l'emmène.
Allez, je vois nos invités qui ont envie de commenter ce qu'ils entendent. Pierre Lemarquis, Édouard Perrault sur cet album mythique de Keith Jarrett, Cologne. Alors,
Ah bah, Pierre, allez-y.
Pierre le Marquis.
Ah bah, on pense, oui, ça, qui j'arrête est dans un état épouvantable. Et puis surtout, il a pas le piano qu'il voulait. Donc, il a une casserole. Il va jouer dessus.
Une contrariété.
Une grosse contrariété. Il a pas dormi, il a pas mangé. Enfin, rien ne va. Et on peut penser que ce jingle-là, qui incite le public à rejoindre la scène,
sonnerie, ouais.
La sonnerie, ça va être sa bouée de sauvetage. Il s'attache à ces quatre notes, et à partir de ces quatre notes, il puise dans les immenses connaissances qu'il a, et il développe, et ce sera peut-être l'un de ses plus beaux concerts.
Ouais.
Alors il y en a plein, il y a David Gilmour qui vient de faire ça, le bassiste des Floyd, avec le jingle de la SNCF, quoi, il vient de développer dans son arrière-disque, quoi, à la guitare.
Édouard Perrault, toujours sur l'album de Keith Jarrett.
Oui, à la fois quand j'entends ces premières notes là introductives, je peux pas m'empêcher de penser à tous ces concerts qu'il a fait avec Miles Davis dans les plusieurs années avant, où il est sur un petit orgue comme ça. Il y a un concert à l'île de Wight qui est extraordinaire où il est là. C'est une sorte de vecteur d'énergie comme ça. Et en fait, voilà, dans le jazz, j'ai l'impression que c'est presque la philosophie de Montaigne, hein. C'est on va mourir, mais il faut bien mourir.
Oui.
Et je trouve que un musicien de jazz, mais tous les autres compositeurs aussi, bien sûr, mais l'œuvre rejoint l'artiste quelque part. Il y a un édifice qui s'effondre quand le musicien il meurt. Il y a tout un savoir qui disparaît comme ça. Il y a un empirisme, une expérience. Hein. Jimi Hendrix. C'est appelé le The Jimi Hendrix Experience. La vie est une expérience, la musique est une expérience. Frank Zappa a appelé son groupe les Mothers of Inventions. Il y a ce côté-là, je trouve.
Viron demande, est-ce qu'il est vrai que Mozart s'inspirait du rythme que les chevaux de la calèche imprimaient avec leurs sabots lors de ses voyages à travers l'Europe, Pierre le Marquis?
Ça a été dit. Et la personne qui a dit ça n'était pas un scientifique. Je crois que c'était quelqu'un qui vient du milieu du cirque et qui justement travaille, je ne sais pas, Bartabas, enfin, quelqu'un qui travaille beaucoup avec les chevaux et qui avait constaté la ressemblance entre les cadences. Mais c'est pas du tout impossible. Mozart regardait pas par la vitre. Hein. Enfin, il fait jamais description des paysages qui rencontrent, mais le rite devait rentrer, la calèche, c'est pas impossible.
Alors, ce qui est sûr, c'est que Alar Raka, le musicien indien, le père de Zakir Hussain, a beaucoup pris le train, forcément, parce qu'en Inde, il y a des trains incroyables et très longs. Et Alar Raka a composé des morceaux de tabla en s'inspirant du rythme des trains sur les rails. Donc,
ça rejoint si ce que Mozart a pu entendre dans sa calèche.
Si c'est pas Mozart,
Duke Ellington, Takes the A-Train.
Voilà, Takes the A-Train.
Qui prend son train tous les matins, qui en fait un morceau.
Pierre le Marquis, est-ce qu'il faut avoir un certain savoir intellectuel pour être capable d'improviser?
Alors, il y a deux théories qui, toutes les deux, sont comme toujours justes. La première, donc la grosse théorie de l'improvisation, c'est il faut 10 ans de travail pour constituer un cerveau expert, 10 000 heures de travail avec un bon coach.
Pour être capable de s'envoler, ensuite de ses propres ailes.
Acquérir la technique. Ouais. Puis ça suffit pas, faut être doué, faut un peu génétique, ou les empreintes initiales, peut-être une famille de musiciens, ou au contraire, des gens qui n'aiment pas la musique et la volonté de se réfugier dans la musique. Donc, à partir du moment où la technique ne pose plus un problème, l'improvisation peut être plus fluide, puisqu'il n'y a pas le problème de savoir comment...
On s'émancipe à ce moment-là.
Voilà, ouais. On peut puiser là-dedans. Et puis, pourtant, les oiseaux composent, les gibbons chantant en chorale, ils n'ont pas fait le conservatoire. Et puis, il y a des musiques comme ça, des créations inouïes qui vont arriver de gens qui ne sont pas passés par un conservatoire classique. Alors là, on peut penser souvent qu'ils sont inspirés par la nature, qui est le plus beau conservatoire qui soit. Qu'on a la musique, par exemple, des Adygéens dans le Caucase. Donc c'est un peuple qui est dans la montagne. Et quand ils improvisent, il y a toujours un ténor. Et si on suit la ligne mélodique, c'est la crête des montagnes. Et derrière, les autres qui font des chœurs, qui font l'écho. Quoi. Donc c'est une musique qui ressemble à leur milieu environnant. Et il y a quelque chose de très beau qui a été étudié chez les berbères du sud marocain, où là ils ont des chants pour les grands chants en été qui célèbrent la campagne, la nature, etc. Et en disséquant ces improvisations, on s'aperçoit qu'elles sont calquées sur la pousse des palmiers ou sur les grains d'orge. C'est-à-dire que vous avez deux chœurs de femmes, deux demi-chœurs de femmes, il y a un poète qui vient, qui est le mot pour donner le thème, c'est il ensemence, oui, il sème la petite graine. Dans un des chœurs de femmes, il y a une poétesse qui va répondre, tout le chœur va chanter, l'autre demi-chœur tape dans les mains, et frapper dans les mains, c'est le même mot que arroser. Et le demi-chœur va reprendre le thème en le montant légèrement en tonalité, etc. Donc ça fait un tuilage qui évoque la forme du palmier, quoi. Et à la fin, il y a les fruits, et c'est le même mot pour le poème, et le fruit, et la graine. Et c'est le même mot pour le souffle, et l'âme, et la mélodie. Donc c'est vraiment calqué.
De Lucie Jordan, la voix de Marianne Faithfull sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Mes invités, Édouard Perrault et Pierre Lemarquis, pour parler de l'improvisation avec vos messages nombreux sur le site de l'émission. Christophe demande si les moments propices à l'improvisation correspondent à des moments où le cerveau est reposé, Pierre Lemarquis.
Alors, il a parfaitement observé, enfin, c'est ce qu'on voit dans l'IRM fonctionnel, dans l'IRM du musicien qui va improviser, s'il est tout seul, hein, pas s'il dialogue avec un autre musicien, on a la partie un peu externe du cerveau, celle qui nous relie au monde extérieur, qui va se mettre en veilleuse, et la partie interne qui nous relie à ce qu'on a au plus profond de nous, vous voyez, qui elle va au contraire se mettre à s'allumer de manière très intense. C'est un petit peu comme dans un état de méditation, ou même comme au repos, qu'on se coupe du monde extérieur. C'est notre cerveau, c'est un peu un cavalier qui essaie de diriger un cheval qui est un peu fou. Le cavalier va aller d'un endroit à un autre, le cheval il préfère s'amuser, aller picorer, essayer de trouver une jument, enfin des choses comme ça. Donc le cavalier a un grand rôle et il bloque son cheval, quoi. Donc eh bien là c'est le cheval fou qui sort et le cavalier qui le laisse faire ce qu'il veut.
Édouard Perrault, à quoi ça peut ressembler un accident d'improvisation? Est-ce que vous en avez déjà vécu?
Oui. Et comme je le pense assez souvent, j'ai l'impression que l'accident peut être heureux. Hein, c'est la, en anglais, ils disent serendipity.
Oui.
La découverte par accident. Et je pense que c'est une chance, l'accident. Hein. Des fois, je suis en train de jouer, je pense à un son plutôt feutré. Donc, je prends une baguette et je vais faire le son que j'ai convoqué. Et je me trompe de côté. Et finalement, je me trompe. Et d'une manière accidentelle, je fais un autre son que je n'avais pas prévu.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que je fais? J'assume. De toute façon, il faut tout assumer puisque c'est composé dans l'instant.
C'est ça. Hein,
donc on n'a pas de gomme, pas de crayon. On construit sur, comme disait ce savant, la science est construite sur des pilotis. Hein. Et ben nous c'est pareil. Hein. Un édifice d'improvisation, c'est une forme qui est en train de se faire. Et des fois, il y a autant de marins sur le bateau que de capitaines. Mmh. Hein, y a, d'ailleurs, c'est à chaque fois.
Et au fond, c'est ça, c'est la différence de temporalité, au fond, entre l'improvisation et l'interprétation.
Oui, parce que je pense que l'imaginaire, il est le même. Il a moins de temps pour s'exprimer. Hein, on peut revenir sur une composition. Mais l'imaginaire du musicien, il est... moi, quand je compose, j'ai du temps. Je gomme, je mets ça à l'épreuve du temps. Hein, des mélodies que je garde ou pas, je les joue. Stevie Wonder dit ça aussi. Hein, moi, j'ai rien inventé, mais Stevie Wonder dit « Je joue ces thèmes-là, et pourquoi vous faites que des tubes ?» Parce que je les ai joués des mois et des mois. Et mon cerveau me dit de les garder. Ma conscience me dit de les garder.
Pierre Lemarquis.
Un mot de Miles Davis, il disait quand vous improvisez, si vous faites une faute, c'est que ça n'en est pas une. C'est que ça n'en est pas une.
Ouais, voilà. L'accident heureux, l'heuristique, la découverte par accident, les Serendib, c'est ce marin qui...
Mais ça veut dire que vous vivez toujours bien ces accidents, même sur scène, face à un public. Il n'y a aucun moment où vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer, ça me terrorise, je me sens mal et... Ça... Apparemment non, hein. Vous avez cette distance.
En improvisation, Frank Zappa disait, il n'y a pas de réussite ni d'échec. Hein. D'ailleurs, Giacometti, dans son œuvre intégrale, le dit. Ouais. Il y a une quête, simplement. On essaye, on est en apprentissage de... Mais être en apprentissage de l'échec.
Est-ce que les animaux improvisent, Pierre Lemarquis?
Beckett disait « échouer mieux ».
Ouais. Ah ben bien sûr, sont nos modèles. Hein. Vous savez, donc les animaux, en général, sont les mâles qui chantent au printemps pour attirer les femelles et puis pour éloigner les ennemis. Vous voyez, donc ils se mettent à chanter et puis le plus grand compositeur, le plus grand improvisateur, c'est lui qui aura le plus de succès. Ouais. Même les baleines, c'est les baleines, elles chantent la même chose tout ensemble au printemps. Et puis une fois de temps en temps, il y a un compositeur, il y a un improvisateur qui va légèrement changer le chant, pas beaucoup. Si c'est trop, ça devient étrange, c'est pas bien. Mais si le change légèrement, c'est lui la vedette, c'est le crooner. Donc, tout le monde va l'imiter parce que si on chante quelque chose, un succès précédent, on devient ringard. Vous voyez, ouais. Les oiseaux qui improvisent. Et puis, alors, pour nous, c'est vraiment nos plus proches parents, peut-être les gibbons. Quoi. Et là, c'est vraiment une improvisation en couple. Il y en a un qui donne le thème, l'autre qui va le développer. À la fin, il conclut. Et grâce à ça, les gibbons sont parmi les 3% de mammifères qui sont fidèles.
Ah, très bien. C'est pour ça qu'il y a plus de crooners chez les jazzman, alors peut-être aussi.
Non, mais sur le chant des baleines, je trouve ça passionnant, le chant des baleines, parce que ça, la propagation de l'onde dans l'eau n'a pas de limite quasiment. Hein. Donc, deux baleines peuvent converser, s'entendre à plusieurs milliers de kilomètres. Hein, j'ai lu 5000, en théorie, il n'y a pas de limite. Donc, il y a des baleines crooneuses, alors.
Voilà. Et puis, c'est ce qui fait un peu leur perte, parce que quand un gros bateau envoie un son intense à 300 mètres, ils perdent l'audition, l'équilibre, on les retrouve échoués sur les plages.
Oui, tout à fait.
André demande, est-ce qu'on peut extrapoler l'improvisation en dehors du champ artistique, l'exercice de l'improvisation en musique ou en parole, pourrait-il aider, par exemple, un joueur de tennis à rendre son jeu plus créatif?
Alors, les études qui ont été faites montrent que les gens qui sont, par exemple, les bons musiciens improvisateurs, ils sont souvent très bons créatifs dans d'autres domaines. Vous voyez, on leur fait des tests, par exemple, le test le plus simple, c'est on monte un objet de la vie courante, une éponge, une brosse à dents, et on demande au sujet inventer d'autres utilisations pour cet objet. Bon, le bon improvisateur de musique va trouver tout de suite plein d'autres utilisations ingénieuses.
C'est votre cas, Edouard?
Absolument. Pierre parlait de l'aspect ludique, mais c'est vrai que je pense à ce bazar de Fellini. Fellini, il a besoin d'un bazar pour faire son film. Et quelque part, il improvise, il ne sait pas trop comment il va faire, mais il va se servir de cette échelle-là, de cette actrice-là qui était là dans un coin. C'est un peu pareil, oui, en effet, chez les improvisateurs, j'ai constaté ça, et dans mon jeu aussi, c'est se surprendre, parce qu'autrement, on va s'ennuyer soi-même, et donc ennuyer les autres. Donc c'est toujours convoquer le maximum d'énergie pour essayer de se surprendre, se dépasser. Mais sans que ça soit démonstratif, juste au service de la musique, parce que la musique c'est quand même quelque chose de magique et qui doit infuser dans l'esprit des gens et qui est pour une plus grande empathie quelque part aussi.
Oui. Il y a des psychologues qui parlent de pensée divergente, c'est-à-dire une pensée complètement chaotique où on cherche à toute vitesse toutes les solutions possibles pour arriver à la solution. Ce qui est contraire, l'inverse de la pensée convergente, qui est cartésienne, une cause, un effet, etc. On arrive à une solution, mais le chaos, ça, si vraiment il y a un créateur au monde, il avait une pensée divergente.
On va écouter Éric Truffat qui répondait à Augustin Trapenard dans Boomerang sur la question de l'improvisation en décembre dernier.
Et comment ça se passe une séance d'improvisation? Parce que je suppose que vous improvisez quand même à partir de quelque chose avec Truffat, non?
C'est comme si nous, on commençait à parler d'un sujet qu'on n'avait pas prévu. C'est la même chose.
Donc alors c'est un sujet ou alors c'est une ligne mélodique, un rythme?
Ça peut commencer une ligne de basse, un riff de basse qui amène à quelque chose. Ça peut commencer sur une ambiance de piano, ça peut commencer sur une mélodie de trompette. On cherche, un peu comme quand on peut chercher dans le vide, et tout à coup on trouve quelque chose. Mais parfois on trouve rien du tout, et en tournant, c'est le risque.
On s'engueule aussi?
Bien sûr.
Musicalement ou alors vraiment?
Non, on s'engueule pas musicalement, non.
Non, mais ça suppose quand même une grande ouverture d'esprit, y compris à des gens,
oui,
à des
styles. Oui, et puis d'accepter de rien trouver, c'est pas facile. Seul, c'est déjà pas facile, mais à quatre, c'est quatre fois plus difficile.
Éric Truffat, accepter de ne rien trouver, Édouard Perrault.
C'est une belle formule, je trouve, quand même. Parce que ça montre toute l'humilité aussi du musicien et face à cette Everest qu'est la musique, hein.
Christine nous dit ceci dans son message, l'improvisation tient une place importante dans la formation en danse contemporaine et ce dès le plus jeune âge. Quelle peut être son influence sur le développement du cerveau et la relation au monde, demande-t-elle?
Il va être extraordinaire parce que on sait déjà, bon, pour la danse, on peut, je pense, calquer ce qu'on a trouvé sur la musique. C'est-à-dire que justement, cette partie antérieure du cerveau, ce lobe frontal qui nous distingue de l'animal et qui nous permet de planifier nos actions, se développe. Donc, quelqu'un qui va pratiquer de la danse ou de la musique, aura les idées beaucoup plus larges. Et puis, il saura aussi mieux planifier son temps, ses révisions, ses examens. C'est un atout formidable.
Jean-Marie demande, quelle différence entre l'improvisation et la variation sur un même thème?
Ah oui, la variation sur un même thème, c'est une sorte d'improvisation sur un cadre. Alors que l'improvisation ex nihilo, c'est inventer un langage, une sorte de langage dans l'instant. Donc se nourrir de tous les phonèmes qu'on a entendus vocalement. Il y a des improvisateurs à la voix aussi, hein, qui se nourrissent de toutes les langues. Moi, j'aimerais entendre le français comme juste de la phonétique. Des fois, j'aimerais, mais c'est pas possible. Ouais. C'est plus possible.
Le lien entre le langage et l'improvisation, justement, ça aussi, on voit des choses intéressantes dans le cerveau, hein, Pierre Lemarquis.
Oui, puisque quand on discute entre nous comme ça, c'est un petit peu les mêmes processus que pour l'improvisation musicale, quoi. Ça permet un peu d'enlever un tout petit peu de magie, mais là encore, la musique occupe bien plus de circuits dans notre cerveau que le langage. La musique peut aider à récupérer le langage, donc c'est quelque chose de bien plus puissant, quoi. Si on sait que la musique, des gens qui ont perdu la parole, si on les fait chanter, on va plus facilement réussir à les faire chanter avant de retrouver la parole. Un bègue, s'il chante, il passe par d'autres circuits et il bégaye plus. C'est pas quand il chante, c'est... Les enfants dyslexiques, s'ils font de la musique, eh bien, ils seront moins dyslexiques.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet passionnant. On peut renvoyer Édouard Perrault sur cet album Beyond the Predictable Touch qui est sorti l'année dernière. Et puis vraiment cet exercice d'improvisation avec Racine Carré, avec Jean-Pierre Drouet qui était réalisé dans les studios de France Musique. Et puis un autre album, Préhistoire.
Oui, Préhistoire, hein, au pluriel.
Ouais, Préhistoire au pluriel.
Mais Préhistoire.
Album qui est sorti en 2009. Et puis Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien. Je sais qu'Édouard Perrault est en train de lire cet ouvrage et que ça l'inspire beaucoup. Peut-être de futures improvisations sur scène, hein, qui sait, qui découleront de cet ouvrage. C'est chez Odile Jacob, tout comme l'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange, on en avait parlé dans l'émission. Merci beaucoup infiniment à tous les deux. Ainsi s'achève cette tête au carré que vous pouvez réécouter en vous abonnant au podcast de l'émission sur franceinter.fr. Demain, l'émission sera consacrée à notre relation au portable et au SMS. Vous avez déjà d'ailleurs à votre disposition le site pour nous laisser vos messages. Dans un instant, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel et le CPE aujourd'hui. Son invité sera Bruno Julliard. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale et Pauline Laverdure qui était à la technique.